Midi 15 sur le 94 FM, vous écoutez 3 en 1 en ce mercredi 26 novembre.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Nous entamons aujourd'hui notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les villages.
On n'a pas de déboire.
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
La rue répond.
Résistance. De venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Nina pour 3 en 1. 3 en 1, c'est l'émission d'information et d'actualité locale de Canal B que vous retrouvez deux fois par semaine, le lundi et mercredi à 12h15 et en rediffusion les lendemains à 8h15. Et au sommaire de ce mercredi 26 novembre, le reportage de la rédaction vous emmènera en immersion à la marche aux flambeaux organisée hier soir à Rennes par l'interorganisation féministe, un événement en mémoire des femmes assassinées cette année en raison de leur genre. Elles sont 152 à avoir été tuées en France à ce jour, en grande partie par leur conjoint ou ex-conjoint. Et l'interview du jour va vous parler de cours de français, et oui, et surtout du durcissement des conditions d'accès à des titres de séjour et à la nationalité française en fonction du niveau de français des personnes qui demandent ces titres. Un sujet qui revient sur le devant de la scène, puisque la loi immigration votée en janvier 2024, qui a mis en place ces modifications, va commencer à être appliquée en janvier 2026. Mais avant cela, on retrouve évidemment l'info du jour, qui aujourd'hui nous est présentée par Julie. Cette année, c'est le tragique anniversaire des 10 ans de la mort de Babacar Gaye. Ce jeune Sénégalais de 27 ans a été tué dans la nuit du 2 au 3 décembre 2015 dans un immeuble de Morpa par des officiers de la brigade anticriminalité, la BAC. Depuis 10 ans maintenant, sa sœur aînée Awa Gaye se bat pour que justice soit rendue. En mai 2023, une ordonnance de non-lieu en faveur du policier avait été déclarée. Awa Gaye continue alors, elle, à affirmer que les contradictions des témoignages des policiers empêchent de reconstituer ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Aujourd'hui, mercredi 26 novembre, aura lieu à 18h à Rennes 2 une rencontre-échange avec Awa Gaye pour parler des circonstances de la mort de son frère ainsi que de la lutte contre le racisme et les violences policières.
Et cet échange s'inscrit dans le cadre d'une exposition toujours à Rennes 2 à l'occasion de ses 10 ans de lutte judiciaire. L'association Histoire 2 et le collectif Justice et Vérité pour Babacar Gaye invitent le grand public à une série d'événements autour de cette exposition, une exposition qui se présente d'ailleurs en forme de revue de presse. Merci Julie. C'était « I don't need you, so you could tell me if I'm good » de Cabochet, issu de la playlist des nouveautés des deux dernières semaines de novembre que vous retrouverez sur canalb.fr. Nous allons maintenant parler de langue, car depuis septembre dernier, le collectif Le Français pour tous et toutes se mobilise pour la défense de l'apprentissage du français pour tout le monde, car celui-ci est mis en péril par deux décisions. Premièrement, la décision de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de dématérialiser les cours de français du service public pour les personnes étrangères. Depuis juillet dernier, ces cours sont maintenant proposés sur une application par des intelligences artificielles. Et puis la deuxième décision, c'est le durcissement des exigences linguistiques pour obtenir un titre de séjour ou la nationalité française. Cette évolution, elle provient de la loi dite immigration qui a été votée par le Parlement en janvier 2024, qu'on a appelée par la suite loi Darmanin. Et avant de se lancer dans l'interview et d'accueillir nos invités sur ce sujet, je vous propose d'écouter Maude Valdo. Elle est chercheuse et maîtresse de conférences en sciences du langage à l'université Savoie-Mont-Blanc. Elle résume et elle remet en perspective ces récentes modifications de la loi en ce qui concerne les conditions d'accès à un titre de séjour ou à la nationalité française.
Du coup, je voudrais remettre un petit peu cette politique dans son contexte historique. Les mesures qui entreront en vigueur en janvier 2026, elles élèvent les niveaux de français qui sont demandés pour l'accès au séjour et à la nationalité. Actuellement, on a pour la carte de séjour pluriannuelle aucune exigence. Pour la carte de résident de 10 ans, il faut prouver un niveau A2 à l'écrit et à l'oral. Et pour la nationalité française, il faut prouver un niveau B1 à l'écrit et à l'oral. Au 1er janvier 2026, du coup, pour la carte de séjour pluriannuelle, on instaure une obligation de prouver le niveau A2 au niveau écrit et oral. Pour la carte de résident, on passe au niveau B1, écrit et oral, et pour la nationalité française, au niveau B2, écrit et oral. Même les exigences actuelles, elles ont été mises en place très récemment au regard de l'histoire des flux migratoires vers la France. Puisque avant 2016, on ne mesurait pas le niveau de français des candidats-candidates à des titres de séjour, on ne mesurait pas avec des instruments dont je vais parler après.
Ces modifications du niveau de langue exigé, elles concernent des personnes ici, à Rennes, qui font ces demandes de titre de séjour, par exemple. Et pour en parler, nous recevons Enora Caillard et Chloé Auffray. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous représentez aujourd'hui le collectif Le Français pour tous et toutes, un collectif national dont la branche locale est récente à Rennes puisqu'il s'est créé en septembre cette année. C'est un collectif qui défend le droit à l'accès à l'apprentissage du français pour tous et toutes. Alors racontez-nous un petit peu comment il a été créé il y a quelques mois.
Alors ça a commencé par un appel du collectif national. Le 8 septembre, le collectif national a appelé à une journée de mobilisation sur l'ensemble du territoire. Et donc Rennes a répondu présent ce jour-là à l'initiative de Langue et Communication à Rennes. Donc plusieurs acteurs du champ social et de l'apprentissage du français se sont réunis ce jour-là pour essayer de débattre un peu des questions et comment nous, sur le local, à Rennes, on peut se mobiliser.
Comme on l'a entendu en introduction de cette interview, c'est aussi la hausse des exigences linguistiques qui durcissent les conditions d'accès au titre de séjour et à la naturalisation qui ont mené à votre mobilisation. Vous, au quotidien avec le collectif Le Français pour tous et toutes, qu'est-ce que vous voyez comme conséquence concrète de ce rehaussement du niveau nécessaire de maîtrise de la langue pour les personnes qui sont en situation de migration et qui demandent de régulariser leur situation ?
Alors déjà, c'est une grande inquiétude de la part des personnes qui sont premièrement concernées. Et puis ensuite du champ social, de toutes les personnes qui les accompagnent, parce qu'on sait que ça va être difficile d'atteindre ces niveaux-là. Et surtout, au-delà d'atteindre le niveau, il faut le prouver. Donc il faut passer des examens, il faut passer des tests officiels, des diplômes. Et c'est encore un autre exercice que de juste parler au quotidien. Donc là, leur intégration est conditionnée par la langue. Alors qu'il y a d'autres biais d'intégration en France et que la langue n'est pas le seul critère pour ça. Donc c'est difficile sur ce point-là. Et puis les accès aux cours de français, c'est de plus en plus difficile. Donc je pense que les gens commencent à se sentir bloqués, à se dire comment je vais faire ? Je ne peux pas avoir de cours de français, mais on me demande toujours plus en termes de capacité de langue.
Et vous expliquez également que lorsque vous faites des demandes de titre de séjour et que vous avez déjà demandé 3 fois un titre de séjour d'un an, vous êtes après obligé de passer à une demande de titre de séjour pluriannuel. Donc là, à partir de janvier 2026, si vous n'avez pas le niveau de langue supérieur qui est maintenant demandé pour le titre de séjour pluriannuel, vous avez une chance de perdre vos papiers.
Ça fait presque peur, on se dit qu'est-ce qui va arriver à ces personnes quoi, dans l'avenir. Moi, c'est un peu flou, mais...
Ouais, oui, il y a une vraie zone grise pour l'instant de ces personnes-là, quand elles vont arriver face à ces échéances administratives, comment elles vont pouvoir les gérer. On va en reparler dans la suite de cette interview de ce que ça veut dire concrètement pour les personnes qui sont concernées par cet apprentissage du français. Avant, j'aimerais qu'on revienne sur la décision récente de l'OFI, donc l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sa décision de dématérialiser sa formation d'apprentissage du français à destination des personnes étrangères en situation régulière. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça a été, cette décision de l'OFI ? Et qu'est-ce qu'elle produit sur le terrain concrètement pour les personnes qui ont besoin d'apprendre le français aujourd'hui en France ?
Nous, on était formatrices de français, donc on faisait ces cours-là. En fait, toutes les personnes qui avaient un premier titre de séjour et qui n'avaient pas le niveau A1, donc c'est le plus petit niveau, ils allaient tous en cours avec nous, avec un certain nombre d'heures selon les besoins. Donc il y avait 200 heures, 100, 200, 400, 600 heures. Donc ça paraissait long, mais c'était pour atteindre le niveau A1, donc c'était plutôt pas mal en soi d'avoir des cours de français. Surtout qu'on est c'est des formateurs qui ont des masters, donc... Voilà, on est formé à ça, c'est notre métier. Et maintenant, ils ont enlevé tous les cours, sauf les 600 heures. Donc, en fait, sauf les cours pour les tout petits niveaux, les personnes qui sont analphabètes, souvent, dans leur langue. Donc, ils sont vraiment très, très loin de pouvoir apprendre le français. Tous les autres vont être sur une plateforme en ligne, sur une application qui utilise l'intelligence artificielle, il me semble. Donc, sans professeur, sans interaction. Donc, comment apprendre la langue dans ces conditions ? Je trouve ça vraiment... compliqué. Et de plus, ça devient facultatif. De même, les cours en classe proposés pour les 600 heures, donc les tout petits niveaux, sont facultatifs. Donc ça paraît évident que certaines personnes vont les refuser. Puis ensuite, on va leur demander un niveau A2 alors qu'ils n'auront jamais fait de cours.
Le changement est assez drastique, puisque avant, on leur demandait de suivre des cours de A1 sans obligation de résultat. Et c'était des cours obligatoires. Maintenant, on ne leur propose plus de cours obligatoires, c'est à eux de décider. Par contre, ils ont une obligation de résultat, qui est le A2. En fait, c'est peu importe comment vous atteignez ce niveau, mais vous devez l'atteindre. Donc, avec des cours en ligne sur une application, pour pratiquer l'oral, pour pratiquer l'écrit, ça devient compliqué sans le regard d'un formateur.
Et vous, d'ailleurs, vous deux, vous êtes formatrice. Est-ce que ça veut dire que vous êtes professeur de français langue étrangère, prof de FLE ? Donc, comment vous voyez aussi cette proposition, même, rien qu'en termes pédagogiques ?
En termes de pédagogie, ça veut dire qu'ils n'ont pas de retour d'un formateur. C'est quand même assez compliqué de voir sa propre progression sans quelqu'un qui nous la confirme, sans quelqu'un qui nous indique là où ça va pas et comment progresser. Avec une application corrigée par une intelligence artificielle, j'ai du mal à voir comment un apprenant peut se sentir valorisé dans son apprentissage. Et puis, au-delà de la langue, en fait, ça rompt le contact social qu'il y avait avant en classe avec un mélange de personnes, de nationalités, d'horizons tout à fait différents et qui les amenait à pratiquer leur français dans un centre de formation. Là, maintenant, on isole les personnes encore plus et on leur demande toujours plus.
Donc le collectif Le Français pour tous et toutes a publié il y a quelques années déjà un manifeste qui reprend les grandes lignes de son engagement. Et je vais en lire quelques lignes et vous allez nous aider à décrypter un petit peu ce qui se passe dans ce manifeste. Je cite « Depuis les années 90, l'apprentissage du français est devenu un élément de la politique publique de contrôle de l'immigration. Il fait l'objet depuis 2004 d'appels d'offres qui ont eu pour effet de confier les actions de formation à des grosses structures professionnelles en capacité d'y répondre et de fragiliser les associations qui souhaitaient poursuivre leurs actions, intégrant l'apprentissage du français comme un volet d'une action plus complète. » Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu décrypter ce qu'il y a derrière ces lignes du manifeste du collectif Le Français pour tous et toutes ?
C'est un manifeste qui dénonce plusieurs choses. D'abord, que la langue devienne une condition pour l'intégration. C'est-à-dire que la personne n'a pas le choix. Il faut absolument avoir un certain niveau de français. Il faut apprendre le français pour s'intégrer. Or, il y a plusieurs biais pour l'intégration en dehors de la langue. Il y a aussi le contact social, le travail, le logement. Et donc là, on focalise tout sur la langue avec les politiques actuelles. Autre chose, c'est qu'il y a une multitude de profils pour les apprenants. Certaines personnes qui travaillent, certaines personnes qui ont des enfants, certaines personnes qui n'ont pas de logement. Et en fait, centraliser les cours sur un grand centre de formation qui propose un mode d'apprentissage, ça ne suffit pas à répondre à tous les besoins. C'est pour ça que continuer à financer les associations, c'est aussi permettre à tout le monde d'avoir un accès qui correspond à leurs besoins.
Et ça résonne aussi avec un manifeste qui est aussi sur le site du collectif, celui-ci écrit et rédigé par des personnes qui apprennent le français et qui dénoncent effectivement le manque d'offres, également des formations qui ne correspondent pas forcément à leur profil, comme vous venez de l'expliquer, et puis globalement des conditions d'apprentissage qui ne sont pas les bonnes. Si l'on revient à la base, Rapidement, aujourd'hui, et vous, grâce à votre retour, on va dire, terrain, quel est le parcours type d'une personne qui a besoin d'apprendre le français aujourd'hui dans le cadre d'un parcours d'immigration, aujourd'hui à Rennes, par exemple?
Eh bien, avant septembre 2025, c'était, comme je disais tout à l'heure, toutes les personnes... Alors, une fois qu'ils ont leur titre de séjour, donc c'est très long, ça peut prendre des mois, voire des années, pour avoir un premier titre de séjour selon le profil de la personne. Et donc, une fois qu'ils avaient leur premier titre de séjour, s'ils n'avaient pas un niveau A1, ils avaient des cours en classe, comme je disais, avec un professeur, une formatrice ou un formateur. Et en attendant, eh bien, ils pouvaient peut-être aller dans des associations, mais elles n'ont pas des places illimitées, donc c'est assez bouché quand même. Et depuis septembre 2025, du coup, il n'y a plus les cours en classe pour beaucoup d'entre eux, comme on disait.
On n'a pas énormément de regard encore sur comment ça se passe avec les nouvelles règles, parce que c'est assez récent. Ça date du coup du 1er juillet 2025. On peut quand même constater qu'il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers les associations, qui ne peuvent pas répondre à l'ensemble des besoins sur le territoire. Les moyens des associations ne sont pas illimités. Donc on voit quand même des pics de présence. Dans l'association où je suis actuellement en tant que bénévole, c'est l'association DIDA. On propose des ateliers de français le soir. On a environ une centaine d'apprenants par soir, ce qui est énorme. Si on continue sur ce chemin-là, je pense qu'il y aura toujours de plus en plus de personnes qui veulent apprendre le français avec un formateur et surtout qui veulent être en contact de d'autres personnes dans la ville.
Oui, aussi comme premier pied d'intégration dans une nouvelle ville où on a l'intention de rester et de s'installer.
Je compte pas attendre 300. Je compte pas attendre 300 berges, je compte pas attendre les sceptiques. Sans les paillettes, les épices, les pessimistes partent dans Zef. Je compte pas attendre 300 berges, je compte pas attendre les sceptiques. Sans les paillettes, les épices. Le félin s'immisce, London style. Je fais la bise comme un gangbox style. Je navigue entre ce que je combine et ce que je combats. Rien que des virages dans ce bail. Le félin s'immisce, London style. Trop mal ni en boîte ni en costard. Trop mal ni en boîte ni au bout de ma vie. Je passe plaisir aux bâtards d'en face. C'est pour mes go en baggy, les refs en parisi qui font bugger les vieilles. La line peut saler, le futur aussi. Tout brûler, c'est le main event. Frère, c'est moi juste un bon break. Il est pas temps qu'on se taise. J'compte pas attendre 300 berges, j'compte pas attendre les sceptiques. Sans les paillettes, les épices, les pessimistes partent dans Zef. J'compte pas attendre 300 berges, j'compte pas attendre les sceptiques. Sans les paillettes, les épices. J'essaie de rester positif, c'est dur, mais y a pas de fumée sans fun. Ils voient le futur dans les films, j'ai vu l'avenir dans un Phuket sans feu. Je me demande encore pourquoi jouer les crevards
sur
meurtre.
ZBL de Lynx IRL sur Canal B. De retour en plateau avec Enora Caillard et Chloé Offray, toutes deux bénévoles au sein du collectif René, le français pour tous et toutes. C'est un collectif qui se mobilise pour que le français continue à être enseigné de vive voix auprès des personnes qui en ont besoin et non pas par des applications numériques. Un collectif qui se mobilise notamment depuis que la loi immigration votée en janvier 2024 a rehaussé les exigences linguistiques qui conditionnent l'obtention des titres de séjour aux résidents étrangers en France. Enora et Chloé, vous êtes aussi, vous nous l'avez dit en première partie d'interview, de formation professeur de français de langue étrangère. Ce week-end, vous proposez de faire comprendre par la pratique au grand public ce que vous venez de nous présenter de manière théorique. Ça se passera à l'Hôtel Pasteur dès vendredi. Expliquez-nous un petit peu ce dont il va s'agir.
Donc le premier événement aura lieu le vendredi après-midi à 17h. Nous allons proposer un petit cours de pachto en totale immersion. Donc il n'y aura pas de français. Ce sera 100% pachto. Donc le pachto est une langue de l'Afghanistan. Et l'idée, c'est de mettre le grand public, le public, en condition, comme les personnes qui viennent apprendre le français mais qui ne connaissent pas du tout cette langue. Qu'est-ce que ça fait d'être dans une langue qu'on ne maîtrise pas du tout? Et qu'est-ce que ça fait d'essayer d'apprendre une langue quand on n'a jamais entendu un seul mot de celle-ci?
Et qu'est-ce que ça fait peut-être de se dire dans 2 ans, il faut que je sois B2 en pachto, alors que j'y connais rien, je connais peut-être même pas l'alphabet si on change de système de lettres, etc.
Le samedi, ensuite, il y aura une immersion dans le test DELF B2. Donc le DELF, c'est un test de langue officielle, comme le TOEIC pour l'anglais, par exemple, qui est donc nécessaire pour la nationalité. Donc les personnes seront invitées, enfin auront l'occasion de se mettre en condition dans une salle de test de français et le faire, et voir en fait en quoi ça consiste, quel est le niveau, et se rendre compte que notamment en production écrite, c'est pas si facile que ça. Donc voilà, c'est une immersion une fois de plus. Donc on a l'immersion dans un cours de langue et maintenant l'immersion dans un examen officiel. Donc c'est ce qui est proposé samedi à 14h30.
Il faut aussi rappeler que le système scolaire universitaire français aime beaucoup l'écrit, la rédaction, le commentaire, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres systèmes scolaires. Et du coup, là, on demande aussi un exercice, j'imagine, qui est plus compliqué que ce que certaines personnes peuvent avoir l'habitude de faire.
Oui, bien sûr, ça va au-delà de la langue. On demande des compétences scolaires qui ne sont pas universelles, en fait. C'est très occidental, et encore, je ne sais même pas si tous les pays seraient vraiment concernés par ces méthodes d'apprentissage.
C'est presque discriminatoire. Ça veut dire que si dans votre pays, vous n'avez pas été à l'université ou alors pas au lycée, ça paraît très compliqué de réussir cet examen.
C'est intéressant aussi de se dire que vous allez mettre en position du coup d'apprentissage des adultes aussi, des personnes qui n'ont peut-être plus l'habitude de se retrouver dans une zone d'inconfort. Voilà, quand on a 50 ans, qu'on fait le même métier depuis 25 ans, bah en fait, qu'est-ce que ce serait vraiment que d'arriver dans un pays où on n'a ni les codes culturels, ni l'alphabet et ni les connaissances du vocabulaire. Et est-ce qu'il y a d'autres événements aussi
Et le dimanche, ça continue. Il y aura un moment où il y aura de 14h à 18h le dimanche plein de jeux sur différentes thématiques. Donc il y en aura d'autres que nous, sur le consentement notamment, j'ai vu. Et donc nous, on propose deux jeux. Un jeu créé par Enora et une autre collègue Kelly, qui est un QCM sur... Tu peux expliquer, Enora, peut-être, et j'expliquerai mon jeu après.
On a créé un quiz sur le parcours linguistique d'un migrant. L'idée, c'est d'essayer de tester ses connaissances, peut-être pas forcément, mais de découvrir effectivement qu'est-ce que c'est le parcours linguistique d'un migrant, en essayant de s'imaginer, de se représenter en répondant aux questions.
Et moi, j'ai créé un jeu qui est donc pas en individuel, mais je vais un peu l'animer. Là, c'est plus pour parler des freins, de tous les freins et de toutes les choses qui limitent l'apprentissage pour une personne étrangère. Donc, j'ai créé plusieurs petites choses, notamment une sorte de jeu, vraiment jeu de société, entre guillemets, où les personnes auront des cartes et avanceront sur un plateau. Sauf que le jeu est tout déterminé, comme pour moi, le parcours d'un migrant. Il n'y a pas de dés à lancer et tout, il y a juste des cartes. Et en fait, il vous arrive ça. Et toutes ces choses font que le parcours est très difficile. Donc, par exemple, le fait d'avoir des enfants, de ne pas avoir de place en crèche, de ne pas être allé à l'école. Il y a plein de choses vraiment que j'ai vues, qu'on a vues, nous, en cours avec nos apprenants, tout simplement. Donc, c'est vraiment de l'expérience qui bloque l'apprentissage du français, qui le rend difficile.
Qu'est-ce que vous attendez avec votre collectif de ces 2-3 jours de présence à l'Hôtel Pasteur ce week-end?
On espère pouvoir sensibiliser un plus grand public à ces questions-là, en fait. Que les gens se rendre compte exactement de ce que c'est que le parcours linguistique d'un migrant en France, que peut-être qu'ils ont entendu les informations, peut-être qu'ils ont entendu parler de cette loi immigration, mais je ne suis pas sûre que les personnes se représentent vraiment les conséquences que cela peut avoir dans la vie de ces personnes-là. Donc l'idée, ce serait déjà de sensibiliser les personnes, leur donner des informations, leur donner des clés, et puis on cherche quand même à inciter le public éventuellement à se mobiliser, en signant le manifeste du collectif ou en devenant bénévole peut-être dans une association ici à Rennes pour aider sur l'apprentissage du français pour les personnes qui auraient du temps et la possibilité de faire ça.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de thématiques sur lesquelles citoyens et citoyennes s'engagent en lien avec les parcours d'immigration, les personnes en situation d'exil. Pourquoi, chez vous, cette question de l'apprentissage du français? Alors, on y a un peu déjà répondu puisqu'on sait maintenant que vous êtes professeur de FLE français langue étrangère. Mais pourquoi cette question de l'apprentissage du français, elle résonne particulièrement chez vous? Elle vous a poussé à vous mobiliser?
Personnellement, c'est vraiment l'expérience du coup. Je suis arrivée, alors pas au hasard, mais j'ai choisi le FLE comme travail. Et par contre, le fait d'être avec des personnes, beaucoup de réfugiés et migrants, c'était un peu le hasard. J'ai trouvé à Rennes et en fait, là, on se rend compte quoi, de choses dont on ne se rendait pas du tout compte avant. Et on rencontre des gens surtout, on rencontre des personnes avec des parcours, des humains, quoi, des personnes. Et on se rend compte des difficultés qu'elles peuvent avoir et de ce qu'on leur demande. Et en fait, moi, j'ai commencé, ça fait 3 ans, et j'étais contente de faire ces cours. Et là, quand je vois qu'ils sont enlevés, il y a des associations, il y a plein d'autres biais, mais qu'on leur met des cours en ligne, je trouve ça vraiment... Enfin, c'est vraiment le sujet du coup, qui me mène, parce que c'est le travail que j'ai fait. Et on se dit, mince, à quoi on sert, en fait, déjà?
Et pour vous, Enora?
Alors, pour moi, il y a deux facettes à cet engagement. Il y a la facette, effectivement, des personnes exilées, des personnes concernées, qui font face aujourd'hui à des difficultés qui, moi, me touche énormément. j'ai toujours eu envie d'aider ce public-là par mon travail. Et ça continue maintenant, même si je ne suis plus formatrice, ça continue cette envie d'aider ce public-là, parce que le français est un droit. Tout le monde a le droit au français, et d'ailleurs pas que les personnes exilées. Les personnes en France, en situation analphabète, ont aussi un droit d'accès à la langue, et pour moi ça me semble vraiment crucial. Et puis l'autre facette, c'est également... le travail en tant que formatrice. Les conséquences de tout ça, c'est que le formateur est relégué un peu au second plan avec, avec l'application. Et ici à Rennes, il y a donc pour le centre de formation qui, avant, donnait les cours de français de l'OFI, il y a 25 personnes qui ont perdu leur emploi suite à ce nouveau marché de l'OFI. Et je pense que enseigner le français, c'est un métier. Être professeur de français, ça ne s'improvise pas. Et j'aimerais que ce métier soit valorisé un peu plus qu'il ne l'est actuellement.
En conclusion de cette interview, le collectif Le Français pour tous et toutes vous invite ce vendredi 28 novembre à 17h. C'est cours de pachto pour tout le monde en immersion. 15 minutes pour voir à quel point vous allez être paumé dans cet exercice. Et samedi 14h30, toujours à l'Hôtel Pasteur, il y aura un test écrit d'organiser pour voir si vous avez le niveau B2 en français. Merci beaucoup Chloé Auffray et Nora Caillard d'avoir été avec nous au micro de 3 en 1.
Merci beaucoup.
Merci.
Samedi dernier, le 22 novembre, a déjà eu lieu la manifestation grand format contre les violences sexistes et sexuelles. Mais hier soir, les femmes étaient encore nombreuses à être dans la rue. Cette fois, elles rendaient hommage sous forme de marche au flambeau aux plus de 150 femmes assassinées en raison de leur genre. C'est ce qu'on appelle un féminicide. La rédaction vous emmène au sein de cette marche nocturne.
Ouais, on peut faire de la monnaie. Bah, j'en veux bien aussi, s'il vous plaît. Un autre ? Alors, on distribue des flambeaux pour la mobilisation de ce soir. Et donc, l'idée, c'est de les allumer au fur et à mesure du fémage qui va avoir lieu avant de partir marcher. Un fémage, donc, le mot d'origine, c'est hommage. Et donc, le fémage... L'idée, c'est de mettre en valeur la parole des femmes et de mettre à l'honneur les femmes.
Nous le savons toutes, la violence ne demande jamais les papiers pour frapper. Aujourd'hui, nous alertons sur les violences conjugales, sur la violence sociale, sur la violence raciste et sur la violence politique qui se banalise dans les discours xénophobes. Et je le dis clairement, le féminisme n'est pas compatible avec le racisme. On ne protège pas les femmes en désignant des ennemis imaginaires. Ce n'est pas féministe d'humilier.
Nous, on est étudiantes sages-femmes. Donc, on est confrontés à ce public de femmes qui subissent des violences dès nos premiers stages et tout. Et je me suis rendu compte que c'est encore plus important que ce que je pensais, qu'il y avait vraiment entre les, entre guillemets, simples attouchements et les crimes comme le viol. Il y avait vraiment la majorité des femmes qui étaient malheureusement concernées. Et je peux pas ne pas venir ici manifester et apporter mon soutien à ces femmes.
Pourquoi je suis là? Pourquoi c'est important d'être là? En soutien, en fait. C'est juste, enfin, il y a des chiffres qui donnent des frissons, quoi. Enfin, sur les femmes qui sont déjà mortes en si peu de temps là.
Et c'est sur ces extraits sonores de la marche au flambeau organisée hier soir à Rennes et puis partout en France que nous allons vous dire. Et c'est sur ces extraits sonores de la marche au flambeau organisée hier soir à Rennes que nous allons vous dire à dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, toute la rédaction sera concentrée sur la couverture des transmusicales et des bars en trans qui s'approchent à vitesse grand V. Vous retrouverez d'ailleurs Yann de l'émission Le Grand Tout en direct sur cette antenne vendredi prochain à partir de 15h depuis le Liberté pour une émission spéciale dédiée à la 47e édition des transmusicales. On se retrouve donc lundi dans 2 semaines à 12h15. Bonne semaine à tous et toutes. Et en attendant, bonne semaine à vous.
Militante à l'international, autant dans la lutte contre l'apartheid que d'autres luttes, des luttes écologistes, des femmes autochtones en Amérique du Sud. On a Ulrike Meinhof, une militante allemande qui a été retrouvée morte en cellule d'isolement. Et on a 3 femmes kurdes du mouvement de libération du Kurdistan, Fidan Dogan, Sakin Kansis et Leyla Shagema.
Juste le fait de se poser sur la place de la République et de pas parler et de voir tous les flambeaux se lever petit à petit et d'imaginer que genre peut-être une flamme c'est une personne qui est morte et c'est vachement attristant et juste ça nous permet de nous redire que il faut qu'on continue de lutter jour après jour, qu'on a de la chance mais que potentiellement bientôt ça sera une personne peut-être qu'on connaîtra et qu'il faut qu'on fasse attention.
Le 25 novembre c'est un moment où on peut tous et toutes ensemble se regarder en face quoi, en tant que société, voir ce qu'on fait aux femmes, aux minorités de genre, ce que la société patriarcale fait à ces personnes dont je fais partie, et notamment les hommes, voilà.
On n'est pas tous femmes du coup, en tout cas moi je suis pas femme, mais j'ai quand même un vécu très féminin et tout. On est là pour se battre, genre on se bat tous ensemble, enfin, c'est une bataille quand même, parce qu'on gagne, enfin il n'y a rien qui est gagné vu qu'il y a encore des morts tous les jours, enfin, des féminicides tout le temps, rien qu'aujourd'hui apparemment ce matin. Donc voilà, c'est des moments forts, des temps forts, tous ensemble.
Pour moi, Homme6 présent dans cette manif, c'est aussi un temps pour marquer la honte que j'ai d'appartenir à ce groupe social que sont les hommes dominants et qui infligent ça. Et je pense que c'est important qu'on soit dans la plus grande diversité possible et qu'on représente aussi les hommes cis pour montrer qu'on n'est pas tous d'accord avec ça et qu'on a envie que ça finisse, quoi.
Il y a eu ce moment de prise de parole où vraiment on a cité tous les noms des personnes qui sont mortes de féminicide cette année. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement triste, mais en même temps tellement nécessaire de faire ce fémage, comme elles l'ont dit. Et là, on est dans la chorale et on chante. Et du coup, on essaie aussi de se réapproprier ce moment, transformer la tristesse en colère aussi par la musique. Et après, on joue à quoi. Même si c'est pas spécialement joyeux d'être là, on préfère être ailleurs, quoi.
Et c'est sur ces extraits sonores de la marche au flambeau, organisée hier soir à Rennes, que nous allons vous dire à dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, toute la rédaction sera concentrée sur la couverture des trans musicales et des bars en trans qui s'approchent à vitesse grand V. Vous retrouverez d'ailleurs Yann de l'émission Le Grand Tout en direct sur cette antenne vendredi prochain à partir de 15h depuis le Liberté pour une émission spéciale dédiée à la 47e édition des trans musicales. On se retrouve donc lundi dans 2 semaines à 12h15 et en attendant, bonne semaine à vous.